siècle et sur la spécificité de la traduction de la fantasy anglophone contemporaine. Ses intérêts professionnels concernent également la dystopie, le steampunk et la fantasy à la française de Pierre Pével. Et aujourd'hui, elle va nous parler de la recréation de l'histoire dans la littérature fantasy d'expression polonaise.
Merci pour cette présentation et merci aux organisateurs. Et, d'accord. Oui. Merci. Ça marche maintenant, j'espère. Alors, je voudrais présenter d'abord une petite introduction, même si ce sont les termes et les définitions dont nous avons déjà parlé. Et, alors, la première association reliée au rapport entre l'histoire et la fantaisie pourrait être la fantaisie historique, un sous-genre de fantaisie défini par Brian Stableford comme un type de fantaisie.
Il faut vous rapprocher du coup du... Voilà.
Maintenant ?
Oui.
D'accord, alors je recommence peut-être.
Reste proche du micro.
D'accord. Alors je recommence. Oui, alors la première association reliée au rapport entre l'histoire et la fantaisie pourrait être la fantaisie historique dont nous avons déjà parlé beaucoup. Un sous-genre de fantaisie défini par Brian Stableford comme un type de fantaisie, je cite, dans lequel l'histoire actuelle du monde primaire est reproduite sauf des circonstances limitées de magie. D'après Stableford, la fantaisie historique peut évoluer en direction de l'histoire secrète, dont l'existence personne ne se rend compte, ou de l'histoire alternative, c'est-à-dire une description d'un passé hypothétique. Par exemple, modifié par la magie. Je ne vais pas me concentrer sur ces définitions parce que, comme je dis, nous avons déjà parlé de ce sujet. Néanmoins, l'histoire semble jouer un rôle crucial dans le genre aussi dans d'autres contextes. Il s'agit d'abord du cadre médiéval. Selon Anne Rochebouë, Anne Salamon, je cite, les romans de fantasy se déroulent extrêmement souvent dans un cadre médiéval, même si ce cadre n'est pas informé par une connaissance érudite de la période, mais par une vision stéréotypée. Naturellement, le Moyen-Âge n'est pas une seule époque qui inspire des auteurs de fantasy. Anne Besson constate que, je cite, le Moyen-Âge offre un cadre spatio-temporel privilégié à défaut d'être unique. Fin de citation. Et par des variantes qui favorisent, je cite, la mise en contact des codes génériques avec les périodes historiques, fin de citation, comme le siècle des Lumières, l'Empire napoléonien ou la Belle Époque. En outre, la construction d'un monde imaginaire indépendant implique également la création de l'histoire ou sa propre mythologie, ce qui découle entre autres des sources d'inspiration de la fantaisie comme mythe. Dont parlent plusieurs chercheurs. Brièvement, afin d'authentifier le monde fictif, son passé devrait être inventé. Oui, c'est ça, ce sont les citations. Dans le contexte polonais, comme souligne Katarzyna Kaczor, il est possible d'observer, je cite, le processus de transplantation et d'assimilation une convention de fantaisie étrangère. Fin de citation. La traduction à la fin de la censure au tournant des années 80-90 ont permis au public polonais d'accéder au corpus de textes provenant des autres pays, ce qui a façonné l'œuvre polonaise au sein du genre. En effet, des auteurs ont commencé à adapter des codes de fantaisie à l'optique locale. En rapport avec la théorie du polysystème d'Itamar Evans-Oral, il est nécessaire de souligner la compréhension de l'accession de littérature de l'imaginaire traduite en tant que système séparé qui influe sur la littérature nationale. Parce que dans ce cas-ci, la fantaisie étrangère traduite a influencé la création fantaisie locale. En fait, on peut parler des mêmes schémas que dans les textes fantaisie des autres pays. Les exemples choisis montrent que l'histoire, similairement à des références à la culture, constitue une partie importante de plusieurs œuvres fantasy en Pologne. Andrzej Sapkowski, connu pour son cycle Vidwin ou Sorceleur, en français The Witcher, en anglais, c'est le nom, je pense, le plus populaire à cause du jeu vidéo, et fait allusion au folklore slave et tente de recréer le style et la langue utilisée des époques passées. Andrzej Wusawicki, un autre auteur polonais, construit des mondes imaginaires à la base des événements historiques. Dans Aposiopesis, l'auteur explore la poétique steampunk à Varsovie du 19e siècle, pendant que dans Smocha Kanserze, il dépeint un portrait inventif de la guerre polono-turque du 17e siècle. Comme le remarquent Natalia Lehmann et Katarzyna Kaczor, spécialistes polonaises en littérature de l'imaginaire, Krzysztof Piskorski, un autre auteur polonais, est associé à la création des univers extraordinaires et au steampunk à la polonaise, ce qui se lie à l'exploration de l'histoire du 19e siècle. Et c'est Krzysztof Piskorski qui dont l'œuvre est ici, au centre de ma présentation. Et alors je voudrais maintenant présenter deux romans de cet auteur, dont Cieniorec. Cieniorec, où j'ai essayé de traduire ce titre, Ombre rite, peut-être. L'auteur fait allusion à des codes culturels et à des genres connus dans la culture occidentale, par exemple à la structure du roman de Cap et d'Épée. Néanmoins, les événements et le monde imaginaire du roman ne sont pas enracinés dans une époque historique particulière. En effet, le passé de l'Europe ne conditionne pas l'univers dépeint dans l'œuvre, même si certaines références à la réalité y apparaissent. Par conséquent, l'histoire du monde dans lequel se déroule l'action se situe dans le cadre entièrement fictif, créé par l'auteur avec tous les détails nécessaires pour le rendre crédible. Ainsi, Piskorski développe un univers complexe dont les règles de fonctionnement sont clairement établies et en même temps construit une narration historique à l'instar d'une chronique, constituant un fond convaincant de l'intrigue. En outre, l'auteur, enthousiaste du concept de monde parallèle, envisage un autre espace des événements, c'est-à-dire une dimension des ombres qui infiltre le monde de la lumière. Piskorski explore dans ce contexte-ci l'antagonisme de la lumière et des ténèbres, ce qui rappelle d'autres oppositions présentes dans la littérature fantasy, par exemple le manichéisme réduisant à l'intrigue au conflit entre le bien et le mal, comme l'observe Jacques Baudou, dû à l'influence de Tolkien sur l'évolution de la fantasy. D'une part, l'auteur se réfère aux traditions du genre en rendant hommage à l'histoire de l'imaginaire, et d'autre part, il réorganise des concepts ancrés dans le passé. En effet, le monde de l'ombre n'est pas une image miroir du monde de la lumière, où le mal se manifeste en tant que côté obscur de la personnalité humaine. Au contraire, les deux contraires se complémentent et l'évaluation de leur caractère dépend de la perspective adoptée. Au cours de l'intrigue, il s'avère que l'une a influé sur l'autre et vice-versa, entre autres à travers les personnages principaux, c'est-à-dire le maître d'épée Arachon Ibaratora du côté de la lumière et Irachon Abaratora du côté des ténèbres. Pour engager le lecteur dans le dilemme des personnages, Piskorski décrit l'histoire de deux lieux en se concentrant sur les relations entre eux et également en se concentrant sur la perspective du monde de la lumière, peut-être parce qu'elle est plus proche du lecteur. Et cela constitue l'arrière-plan, la partie inhérente du récit. Et dans la description du monde de la lumière, plus extensive, ce sont les associations à la culture de la péninsule ibérique qui dominent. Les premiers éléments qui l'indiquent, ce sont les noms propres, les noms comme Ibaratora, le nom du protagoniste, Donna Rodriha, ou Donna se réfère en mot espagnol Doña, Madame, et Alejandro Camina, où Alejandro ressemble en nom espagnol Alejandro, mais c'est, ça s'écrit comme on lit ce nom en polonais. Oui. En outre, ce sont les toponymes qui suggèrent l'affinité avec l'Espagne. Par exemple, le nom de la ville où se déroule l'action du roman, à savoir Cerriva, très similaire au nom de la capitale de l'Andalousie, Séville ou Séville, mais perçu par l'auteur comme analogue à Barcelone, dont l'auteur a déjà parlé pendant des entretiens. Les noms des habitants de régions géographiques spécifiques évoquent également des associations avec la langue espagnole. L'auteur introduit au monde imaginaire de différents peuples tels que Vasilichice, appellation proche de Castilichice en polonais, c'est-à-dire les habitants de Castille. Un autre groupe est Ibrovien, le nom lié à l'adjectif ibérique, ce qui aussi envoie le lecteur en France. Et néanmoins, l'auteur fait allusion à la culture hispanophone aussi à travers le genre avec lequel la fantaisie se mélange dans le roman, à savoir le roman d'aventure de Cap et d'Épée, d'Arturo Pérez Reverte. En effet, Signoret peut être vu en tant que référence à la suite romanesque de l'écrivain espagnol en question, c'est-à-dire les aventures du capitaine à la triste, dans lesquelles sont explorées l'histoire et le roman de Cap et d'Épée. Et c'est la comparaison faite par la maison d'édition qui a publié l'œuvre de Piskorski. Clairement, le choix de ce genre rapproche l'œuvre de Piskorski du contexte français un peu, ainsi que de la vie d'Alexandre Dumas et des Trois Mousquetaires. Un autre rapport avec la réalité, mais hors du contexte hispanophone, peut être repéré grâce au personnage de L. Holbrandwer, un scientifique étranger provenant du pays de Holbrandwer, dont le caractère rappelle celui de Pays-Bas du XVIIe siècle. Mais je dirais qu'il est possible de dire que ce sont tous ces éléments, sont les éléments du jeu avec le lecteur, un clin d'œil qui n'influence pas beaucoup le fonctionnement, la mécanique de cet univers. Les associations avec des cultures existantes constituent plutôt la fondation de la construction du monde imaginaire, nécessaire pour donner au lecteur les points de soutien dans l'apprentissage de choses nouvelles et exotiques. En traitant de culture familière en tant que point de départ, l'auteur établit une base pour une création convaincante, ce qui devient plus approfondi à mesure que l'histoire fictive du monde est décrite. En résultat, le narrateur relate l'histoire de la dynastie royale à Cerriva, impliqué dans la guerre avec le peuple d'Anatolichice. Cette fois-ci, il est possible de dire que l'écrivain choisit de se référer à l'Anatolie où s'étendait l'Empire ottoman. Et ce sont simplement des associations possibles. Oui, alors ce sont les ennemis du peuple de Cerriva qui explorent comme les premiers les relations entre les univers. Le monde de la lumière, le monde de l'ombre, et développe une méthode de déplacement profitant de raccourcis dans le monde de l'ombre. Oui. Et, le monde de l'ombre, c'est-à-dire un espace où vivent les habitants, ses habitants, parce qu'il y a plus de niveaux, et n'est pas décrit en détail, parce que la perception des habitants du monde, de la lumière, n'est pas suffisante pour les caractériser, oui, tandis que les personnages provenant des ténèbres se concentrent plutôt sur ce sentiment lié à la transition, puisque l'action se déroule dans le monde de la lumière. Alors il doit voyager et il doit traverser cette frontière entre deux mondes. Je voudrais vous décrire ce monde en détail, mais je voudrais également vous présenter un autre exemple. Alors, clairement, je dirais que l'architecture du monde imaginaire de Signoret, d'une part basée sur des références utiles à la réalité, d'autre part érigée sur l'antagonisme de la lumière et de l'ombre, très complexe et créatif, relie le roman au genre de fantasy, en effet un univers indépendant avec la capacité de communiquer avec un autre monde caché du côté des ténèbres fait penser à la classification des types de fantaisie proposée par Farah Mendelssohn, qui parle de la portal fantasy, où le protagoniste voyage dans une autre réalité, et de l'immersive fantasy, dont l'existence des autres pays, à part l'univers au sein duquel se passent les événements, du récit est ignorée. Enfin, les voyages entre les mondes, même si temporaires ou courts, évoquent le premier type distingué par Mendelssohn, tandis que la structure extensive et l'autonomie du monde imaginaire implique l'appartenance du texte au deuxième type. En conséquence, il est possible de dire que la création de l'histoire dans le roman de Piskorski permet de construire un univers fictif caractéristique de l'œuvre de fantasy. En revanche, dans son autre roman, à savoir Stadich Tuch 7, au 44, Piskorski décide de recréer l'histoire en la modifiant naturellement et en l'adaptant à la structure du récit. L'œuvre en question est pleine de références à l'histoire, à la culture de l'Europe du 19e siècle, dont la première, le titre qui constitue une citation provenant de Dziady, ou Les Oeilleux, un drame polonais d'importance nationale, est écrit par Adam Mickiewicz en quatre parties entre 1830 et 1860, qui fait référence à la résistance à l'agresseur russe. Dans son œuvre, Piskorski construit une intrigue fantastique basée sur des vrais événements historiques. Le prologue s'ouvre sur une description de la version alternative de l'insurrection de novembre ou de la guerre polono-russe de 1830 et 1831, pendant laquelle meurt Emily Platel, une héroïne née dans une famille noblesse luttant contre le tsar en Lituanie, où s'étendent les combats du soulèvement. Chez Piskorski, Platel est accompagnée par Elisa Zmijewska, la protagoniste du roman, espionne et guerrière. Les deux femmes suivent l'armée qui se retire du champ de bataille, et c'est dans la forêt lituanienne que les insurgés sont attaqués par des créatures mécaniques ressemblant à des insectes, et que Zmijewska tente de les arrêter en utilisant la magie de la nature à laquelle elle a accès grâce à son origine. Ainsi, le prologue établit la structure du roman. Les événements et personnages historiques sont juxtaposés avec des concepts fantastiques. La même idée se répète au cours de l'action du roman. L'auteur explore le concept du système des univers parallèles et met en relief l'existence de plusieurs versions de la réalité et de la vérité, tandis que notre histoire est une de ces versions. Et le monde du roman ne fait pas semblant d'être le seul. Et une telle idée permet de multiplier les variantes de l'Europe, accessibles grâce à la technologie des portes de téléportation, et de justifier la transformation des faits historiques au fond de la construction de l'intrigue de fantasy. La protagoniste est envoyée à Londres, où elle devrait assassiner Konrad Zawoski, un entrepreneur d'origine polonaise. Elle atteint l'Angleterre à travers l'Europe numéro 2, en compagnie d'un représentant d'une race étrangère d'insectes et une tête d'un chercheur anglais, préservé en séparation du corps et encore en vie. L'action se déroule ainsi en Grande-Bretagne, mais également en France et en Pologne du 19e siècle. Par conséquent, l'auteur profite de plusieurs occasions d'introduire à son œuvre des trames et des personnages historiques. Quand la protagoniste arrive en Angleterre, l'auteur souligne la présence des motifs de steampunk. Le steampunk, compris en tant que partie inhérente de la fantasy et la science-fiction, par exemple selon Farah Mendelssohn et Edward James, ou un genre imaginaire indépendant, réinvente l'histoire du 19e siècle, surtout dans le contexte de l'Angleterre du style néo-victorien, comme l'observe Ken Volak, en vue d'examiner les questions relatives à l'économie, la politique et à la culture importantes également aujourd'hui. Cependant, Volak met l'accent sur le fait que dès les années 80, le steampunk s'avère ne pas être limité au cadre anglais, dont bénéficie Piskorski en introduisant les éléments steampunk aussi au sein des autres pays visités par les personnages principaux. En résultat, l'écrivain puise dans l'histoire de la Pologne en pratiquant le steampunk à la polonaise, qui, selon Natalia Lehmann, se caractérise par l'adaptation de ce qui est global à ce qui est local, c'est-à-dire à l'histoire de la Pologne, notamment à l'époque du partage. La perspective polonaise diffère également de la perception anglaise. Les auteurs polonais se servent du steampunk pour parler de la résistance et de la lutte avec l'envahisseur, vu la position du colonisé que la Pologne avait à cette époque-là. Et, bref, Piskorski choisit de comparer différents côtés du genre en changeant la scène et le style adopté. L'Angleterre, de 1944, constitue une version alternative de ce pays, où la technologie a ouvert les portes en direction des autres versions de Londres. Comme dans plusieurs ouvrages de steampunk, Piskorski décrit la ville transformée par la révolution industrielle en proposant en même temps sa propre vision, comme il débute chaque chapitre avec une citation provenant de la poésie ou des articles des presse de l'époque. Londres a également décrit de telle manière, c'est-à-dire à travers un poème de William Blake. D'autres poètes et écrivains britanniques du 19e siècle sont également cités. Ce sont par exemple Alfred Tennyson, Charles Dickens ou William Wordsworth. Pourtant, c'est avec Byron que l'auteur vraiment transporte le lecteur dans le passé ou au moins une de ses versions possibles. Et, or, Byron s'avère être un comploteur, le chef d'une organisation combattant l'influence destructive de la technologie de téléportation. Elisa rejoint le groupe pour lui offrir son soutien, d'autant plus que les préparations à l'attaque contre Zawoski se prolongent. En outre, les mots de passe de l'organisation à le titre d'un poème de notre poète bien connu dans l'histoire de la littérature anglaise, à savoir de Percy Bysshe Shelley. La connaissance de son sommet, Ozymandias, permet à la protagoniste de trouver Byron et son établissement secret. Piskorski se réfère également à des personnages historiques français et polonais, puisqu'il voudrait attirer l'attention du lecteur et l'encourager à étudier l'histoire par lui-même. En effet, il présente Adam Mickiewicz et Jerzy Słowacki comme des personnes émotionnelles, non seulement des artistes, mais aussi des gens qui luttent pour la liberté de leur nation. La protagoniste rencontre Słowacki, poète romantique comparé par, entre autres, Jan Błoński, spécialiste en littérature, à Byron, à cause de son goût pour l'exotique. Pendant son séjour à Paris, où les émeutes contre la monarchie paralysent la ville, c'est également le moment où l'auteur introduit les personnages de Napoléon, dont la version fantasy, gardée en vie par ses partisans. En parlant d'une révolution, l'auteur probablement fait référence aux révoltes du 19e siècle en France, comme à la révolution de 1848. En fait, les événements historiques transformés à profit du récit concernent aussi la Pologne. Dans le troisième acte du roman, la protagoniste se dirige vers Cracovie, occupée par l'Empire d'Autriche, pour y arriver avant l'attaque des forces du duché de Varsovie, contrairement à la réalité toujours existante contre vent et marée de l'histoire. À Cracovie, Elisa rencontre des figures historiques importantes, dont une Adam Mickiewicz, auteur de Zaïeux et de Pantadouche ou Messer Thaddée. Sa présence, ainsi que de Słowacki du côté anglais, de Byron, suggère les motifs de la philosophie romantique qui se manifeste à travers la modification de l'histoire, justifiée par l'existence de mondes parallèles. Or, cette transformation permet de parler, dans le contexte du roman, du messianisme romantique polonais, parce que voilà, de grands poètes essaient de sauver la nation en propageant leur philosophie. Et on voit au combat la protagoniste, une femme, qui trouve une solution au problème de l'Europe. Bref, la réinvention de l'histoire du 19e siècle incite donc le lecteur à apprendre la différence entre l'imagination et la vérité et enrichit les concepts fantasy. L'histoire est revitalisée grâce à une forme moderne, tandis que la fantasy et le steampunk constituent des outils utilisés pour explorer le passé et pour trouver de nouveaux chemins au sein des genres de l'imaginaire. Et ce sont les auteurs de sources que j'ai utilisé. Merci.
Alors, merci beaucoup. Je vais donner la parole à la salle. Y a-t-il des questions ou des remarques? Oui.
Dans la fantaisie polonaise, une position vraiment assez cool, certainement. Alors moi j'avais deux questions. En fait, à un moment donné, tu as parlé de censure, en fait, fin de la censure dans les années 80. Je voulais un petit peu savoir comment ça se passait en Pologne. Est-ce que c'est par rapport à la fantaisie, est-ce que c'était exactement la même situation que pour la science-fiction, par exemple, dans les années soviétiques, hein? Est-ce qu'il y avait des adaptations? Est-ce que la littérature n'était pas suffisamment... Ben voilà, quelle était la position finalement du gouvernement par rapport à la fantaisie? Et puis deuxième question, est-ce que, alors je sais bien que ce n'était pas le sujet de ta communication, mais est-ce que finalement la fantaisie à la polonaise, comme tu as parlé de steampunk à la polonaise, est-ce qu'elle reprend des éléments de folklore polonais comme le faire les auteurs russes de fantaisie? Je pensais par exemple à Anna Starobinette dans le Ultra Contemporain.
D'accord, alors la première question, la bourgeoisie est également le régime, c'était un problème parce qu'il n'y avait pas de traduction des auteurs anglophones ou des auteurs d'autres pays. Alors il n'y avait pas d'échange des idées, par exemple, et les auteurs polonais ne pouvaient pas vraiment développer de nouvelles idées. Et puis en 1989, quand le régime a été changé, oui, les traductions ont commencé à apparaître sur le marché polonais, et c'était une bonne occasion d'établir ce contact entre les auteurs de Pologne et des autres pays. Et en ce qui concerne la deuxième question, je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs polonais qui font référence au folklore slave. Je pense que Andrzej Sapkowski est un bon exemple, le plus connu, l'exemple plus connu. Oui, c'est ça, mais il y a beaucoup. Je pense que le protagoniste ne pense rien à propos de Napoléon. C'est vraiment, elle s'occupe des problèmes en référence à ses émeutes. Oui? Alors il y a un conflit et elle fait partie de ce conflit. Mais il y a un problème parce que Napoléon est gardé en vie, comme je dis. Mais il est, on peut dire, un peu zombifié, oui, parce qu'il n'est pas, il n'est pas vraiment en vie, il ne bouge pas, etc. Mais alors, c'est un problème qu'elle doit résoudre, je pense. Et c'est tout, il n'y a pas de commentaires politiques. Parce qu'il n'y a pas de. Ces opinions ne sont pas exprimées explicitement. Alors, mais en général, tout le monde sait, à part les partisans de Napoléon, qu'il devrait être mort. Alors, je pense que c'est. On peut dire que c'est une sorte d'opinion sur, sur le rôle de ce personnage dans ce contexte-là.